Radio Galaxy 98.5.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous, content de vous retrouver, bienvenue sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse, et nous allons continuer à parler santé, à parler bien-être, et je suis avec Alexia Otonac, Alexia qui est naturopathe. Alexia, bonjour.
Bonjour Bruno.
Alexia, deuxième émission sur la santé et le bien-être avec une naturopathe. Rapidement, c'est quoi la naturopathie ?
Alors la naturopathie, c'est tout d'abord une vision des choses, hein, c'est-à-dire que on va considérer la personne dans sa globalité, donc ce n'est pas qu'un corps, mais c'est un corps avec des émotions, une façon de vivre, une façon de s'alimenter, de gérer son stress, etc. Et le naturopathe va être là avec toute une boîte à outils pour aider à optimiser en fait sa vie pour cette personne, de façon à ce qu'elle aille vers un mieux-être, hein, et qu'elle s'épanouisse sur tous les plans.
Et en particulier sur le plan de l'énergie intérieure qui permet d'être en forme et de mieux vivre.
Exactement. On part du principe que chaque être vivant a ce que l'on appelle une force vitale. Et cette force vitale, on peut voir ça comme un curseur en fait. Et au plus elle est exprimée, au plus l'être humain ou l'être vivant au global est en bonne santé, il est épanoui. Et puis certains événements de la vie ou l'environnement ou l'alimentation, plein de facteurs peuvent faire que cette force vitale décroissent, laissant place à un mal-être, à peut-être aussi une santé un peu moins de fer.
On a vu dans l'émission précédente, qu'on peut retrouver en podcast sur le site de Radio Galaxy, qu'il y avait plusieurs piliers sur lesquels se basait la naturopathie. Quels sont-ils ?
Alors, les piliers de la naturopathie, alors, je distinguerai deux choses. Il y a les piliers de la santé en eux-mêmes et aussi les techniques de santé naturelle. Alors pour parler rapidement des techniques de santé naturelle, elles sont au nombre de 10, hein, c'est là qu'on retrouve l'alimentation, la gestion du stress, les plantes, voilà, donc on a toute cette boîte à outils. Et les piliers en eux-mêmes, les piliers de la bonne santé sont au nombre de 5, bien boire, bien manger, on a bien dormir aussi, bouger et puis bien gérer son stress également.
Et aujourd'hui, on va regarder comment bien dormir, c'est important.
C'est très important. L'être humain ne peut pas fonctionner sans dormir. Vous allez pouvoir vous passer de nourriture et d'eau, vous le savez, dans une certaine mesure, bien sûr, hein, sans aller dans des cas extrêmes. Mais la privation de sommeil est quelque chose qui est vraiment extrêmement délétère pour l'être humain. Quelqu'un qui dort mal va avoir pas mal de retentissements sur sa santé physique, sa santé morale. Donc le bien dormir, c'est vraiment un pilier très, très, très important.
On sait en plus que ça joue sur l'humeur, on peut être énervé si on dort mal, on peut être fatigué, on apprend moins vite.
Exactement, il y a beaucoup de retentissements. On peut bien sûr aussi avoir ce dont vous venez de parler, mais on peut avoir des retentissements métaboliques. Quelqu'un qui dort pas bien, qui n'a pas un sommeil de bonne qualité, va peut-être avoir une tendance à créer de l'inflammation dans son corps avec des aggravations sur certains aspects de sa santé. Ça va être aussi une difficulté à gérer son poids. Donc, on a vraiment plein d'intrications avec le sommeil et c'est vraiment la première chose à faire dans sa santé, de vraiment mettre toutes les chances de son côté pour optimiser cette phase-là de notre vie.
On en est où au niveau santé, au niveau de la population ? Les gens dorment bien d'une façon générale ou pas ?
Alors, ça dépend un petit peu des pays, je dirais, et ça dépend aussi des profils. En France, on peut estimer qu'un Français sur quatre se plaint de son sommeil. On peut aussi dégager comme grande tendance que passé 45 ans, le sommeil se dégrade. Il se dégrade dans sa qualité, dans sa durée.
Ça, c'est dû à un problème métabolique, c'est-à-dire que c'est l'avancée en âge qui fait que le sommeil se dégrade.
Oui, c'est physiologique. Il est normal, avec l'âge, de moins bien dormir et de dormir moins longtemps aussi. En fonction des âges de la vie, on a des besoins différents et la qualité du sommeil peut aussi varier, tout à fait.
Il faut dormir combien d'heures ? Il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs ?
Oui, c'est très variable. Alors, si on doit dessiner une tendance, on peut se dire qu'il ne faudrait pas dormir en dessous de 7 heures de sommeil. Voilà. Mais après, il y a des variations interindividuelles, des petits dormeurs, des gros dormeurs, des gens qui, avec 5 heures, vont être en pleine forme, et puis d'autres qui ont besoin plutôt de 8, 9 heures. Voilà, ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Après, c'est aussi fonction des âges de la vie. Par exemple, les nourrissons, les enfants, les ados, il faut laisser dormir les ados absolument. Bah, ils ont besoin de gros sommeil. Donc
l'ado qui se lève à midi, c'est normal.
C'est normal, il faut laisser faire, il en a besoin. Après, il y a d'autres sujets derrière ça, je suis d'accord. Mais réveiller un ado sous prétexte qu'il doit profiter de sa journée absolument, pendant les vacances, je pense qu'on peut vraiment les laisser tranquilles.
Quand on dit qu'on a un mauvais sommeil, ça se manifeste comment ?
Alors, c'est très variable aussi d'une personne à une autre. Un mauvais sommeil, ça va, pour certaines personnes, ça va être « j'ai du mal à m'endormir », je rumine, j'ai du mal vraiment à tomber dans le sommeil. Pour d'autres, ça va être je dors, mais je me réveille, je suis complètement fracassée. Voilà, la personne est complètement fatiguée et elle n'est pas du tout apte à enchaîner sa journée. Ça va être quelqu'un qui va se réveiller plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes, par exemple, ou bien hop, des éveils comme ça, des éveils nocturnes, et puis avec plus ou moins de facilité pour se rendormir. Donc le sommeil, c'est très très variable. En fait, on considère qu'on a bien dormi quand on se réveille avec la formule consacrée « frais et dispo ». Voilà. Alors, même si on a dormi 5 heures, on a dormi 8 heures, peu importe, on se lève et ça démarre. Et ça peut varier aussi d'un âge à un autre, au cours de la vie d'une même personne, mais aussi d'une saison à une autre. On a des périodes de l'année où on a des besoins différents. On n'est pas des machines, hein. Donc il faut accepter aussi que les rythmes changent et que de temps à autre, le sommeil aussi change.
Dans nos régions, par exemple, on a des nuits qui sont beaucoup plus longues l'hiver que l'été. Est-ce qu'il faut plus dormir l'hiver que l'été ?
Je dirais qu'il faut surtout s'écouter. Si on est avec une tendance à souffrir un peu du manque de luminosité, qu'on se traîne, sans aller jusqu'à la dépression saisonnière, mais on a une manifestation de changement avec les saisons, et qu'on s'estime plus fatigué parce que c'est plus dur, parce qu'on a du mal à supporter le froid, par exemple, etc. Parce qu'encore une fois, on est tous différents. Eh bien, il faut s'écouter et accepter de vouloir dormir ou d'avoir besoin de dormir plus longtemps.
Même chose, notre corps est habitué à cette alternance jour-nuit. Et pourtant, il y a des gens qui sont complètement décalés avec ça, malheureusement. Alors ça, c'est quoi ce décalage ? C'est un problème physiologique ? C'est un problème de mental ? C'est dû à quoi ?
Alors, on peut avoir ce qu'on appelle des décalages de phase. Ça peut être dû, par exemple, à une mauvaise hygiène de vie qui s'installe. Donc, c'est-à-dire, on traîne devant les écrans, hein, tout simplement, et puis on retarde la phase d'endormissement. Donc, ça crée, bien sûr, un changement dans les habitudes et dans le métabolisme. Un changement, pas pour la meilleure version, hein, vous l'avez compris. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi parce qu'on a des ruminations mentales, on est préoccupé et donc on retarde la phase d'endormissement. Et encore une fois, si on commence à prendre cette habitude et qu'on met rien en place pour aller dans un autre sens, eh bien, ça va s'inscrire dans le temps, effectivement.
Ensuite, il y a aussi la question des gens qui travaillent avec des horaires décalés, qui font les 3-8, donc des fois à 5 heures du matin, des fois à 1 heure du matin, des fois en pleine journée. Eux, ça doit être très compliqué pour régler leur sommeil.
Oui, c'est très compliqué. Vous l'avez compris, c'est pas physiologique hein, de faire ce type de cycle. Malheureusement, parfois, on n'a pas le choix. Hein. C'est comme ça, c'est le travail qu'on a et il faut suivre ces rythmes-là. Mais c'est vrai que tant que faire se peut, si on peut éviter d'avoir des rythmes en 3-8, en 2-8, eh bien, il faut éviter parce qu'on a montré des études scientifiques qui montrent que sur l'organisme, c'est pas neutre, en fait. Donc, ce n'est pas naturel. En fait, il faut vraiment avoir en tête que nous sommes des animaux et l'animal, qu'est-ce qu'il fait ? Il suit le rythme de la nature. Donc, quand il fait soleil, il est en éveil. Et quand il fait nuit ou que le jour décroît, eh bien, il commence à se mettre en pause et il s'endort. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête.
Même chose donc pour les gens qui se déplacent à l'étranger avec des décalages horaires.
Oui. Alors, le décalage horaire, effectivement, quand on se déplace à l'étranger, voilà, il y a quelques petites astuces. Donc, par exemple, ne pas mettre les lunettes de soleil, vraiment, hein, quand on arrive dans le pays de destination, de façon à ce que les rayons UV rentrent dans la rétine et permettent au cerveau de se resynchroniser sur une bonne phase, on va dire, comme on parlait du rythme circadien, hein, donc jour-nuit. On peut aussi s'aider de prise de mélatonine pour se recaler. Donc, il y a des petites choses à faire comme cela, oui.
Bon, on a vu que ça, c'était ce qui nous empêchait de bien dormir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dormir ? Pour avoir un sommeil réparateur oui. Et être en pleine forme le lendemain, avoir toutes ses capacités cognitives, avoir un cœur en bon état et se lever du bon pied ?
Alors, il faut déjà préparer son endormissement, à mon sens. Donc, c'est-à-dire que idéalement, il faut évincer les écrans. Alors, quand je parle des écrans, c'est vraiment tablette, smartphone, ordinateur, à minima 1h30 avant de s'endormir. Toujours par rapport à cette stimulation de la lumière bleue qui émane de nos écrans, qui rentre par nos rétines et qui fait croire à notre cerveau qu'il fait soleil. Donc, je viens de vous expliquer qu'il fait soleil, lumière du soleil à travers mon œil, je suis en éveil. Donc là, ben, on recrée artificiellement cela. Donc, il faut vraiment faire un travail sur les écrans. Prenez plutôt un bon livre, écoutez en podcast Radio Galaxie, par exemple. Et là, on aura quelque chose d'optimum. Il faut travailler à son endormissement aussi sur l'environnement de la chambre. Est-ce que votre chambre est aérée? Est-ce qu'elle est à la bonne température? Donc, on va préférer une température autour de 18 degrés hein, dans la chambre, par exemple. Il est aussi intéressant d'avoir une chambre dans laquelle on se sent bien, donc c'est-à-dire avec une décoration qui nous plaise, bien sûr, pour aller se coucher dans un environnement agréable. Autre chose également sur l'environnement de la chambre, c'est un environnement rangé. Ça peut paraître simple ou simpliste même, mais effectivement, le fait d'aller dans un espace rangé, eh bien, c'est un espace qui est propice au repos. Donc, on peut travailler aussi à l'environnement de la chambre avec, si on a des difficultés à s'endormir, par exemple, une diffusion d'huile essentielle avant de s'endormir.
Par exemple ?
Alors, par exemple, on pourra faire la lavande vraie, on peut faire le petit grain bigarade, on peut faire aussi ylang-ylang. En fait, ce sont des huiles essentielles qui vont jouer sur le système nerveux et qui vont venir donc apaiser. Donc, vous pouvez diffuser cela avant d'aller au lit. Et puis, ben, quand vous rentrez dans la chambre, vous coupez et vous bénéficiez de cela.
L'idée, donc, c'est d'avoir un lieu reposant.
Exactement. Et bien sûr, je n'ai pas parlé de la literie, mais grand sujet quand même. Avoir un lit dans lequel on se sente bien. Donc, un bon matelas. Donc, les matelas, on les garde en moyenne 10 ans. Ça vaut le coup d'investir dans une bonne literie, bien sûr, et aussi un bon oreiller. Un oreiller qui va convenir au repos de vos cervicales, au repos de votre dos, pour que, évidemment, le repos soit plein et entier.
Ça, c'est pour l'environnement, je dirais, physique. Oui. Mais des fois, il y a aussi un environnement que je ne peux pas éviter. Le bruit, la lumière, les voisins.
Oui. Alors là, il faut essayer de trouver des solutions. Si vous avez un environnement bruyant, eh bien, je vous conseille de mettre des boules-quies, hein, et vraiment d'amoindrir cet environnement sonore. Si vous êtes sensible à la lumière, il faut absolument fermer les volets, mettre des rideaux occultants. S'il y a encore un mini ray de lumière qui vous dérange, mettez un bandeau sur vos yeux. Il faut éviter absolument aussi tous les réveils qui vont projeter, par exemple, la lumière au plafond. Là, c'est absolument délétère, hein. Il faut vraiment absolument pas ça.
Tous les appareils qui restent branchés avec des lumières rouges ou bleues ou vertes.
Voilà, exactement. Donc, vous pouvez mettre un linge dessus, hein, par exemple, pour obturer cette lumière. Vous pouvez aussi avoir un réveil qui va vous réveiller plutôt en simulant l'aube. Donc, ça, c'est très intéressant. Plutôt que d'avoir un radio-réveil avec la lumière. Et aussi faible soit-elle, elle peut vraiment empêcher ou en tout cas abîmer, je dirais, la qualité de votre sommeil.
Ou mon réveil qui fait tic-tac, tic-tac.
Alors là, on le balance. Hein. On le balance par la fenêtre.
Et après, il y a aussi ce que je peux faire ou ce que je dois faire, ce qu'il est conseillé de faire avant de m'endormir. On a vu les écrans, mais il y a aussi peut-être d'autres choses comme l'activité physique.
Alors, l'activité physique, elle est intéressante pour la qualité du sommeil. En revanche, il faut bien faire attention. C'est-à-dire que si vous pratiquez un cours de boxe, hein, par exemple, voilà, c'est votre cours hebdomadaire, et puis, ben voilà, ainsi va la vie, vous bossez, et puis les horaires qu'on vous propose, ça va être, allez, 20h30, 21h30. Donc, bon, un entraînement intensif. Le temps que vous rentriez, que voilà, vous redescendiez, tout ça, de cette excitation et de la stimulation que vous aurez eue, vous n'allez pas pouvoir vous endormir et vous n'allez pas avoir un repos digne de ce nom. Donc, on va plutôt favoriser des activités physiques douces. Hein. Donc, ça va être typiquement du yoga, du pilates, des choses comme ça. Et ça va vraiment favoriser le sommeil ou en tout cas, ça va rendre votre corps propice à l'endormissement et à la détente. Donc, l'activité physique, elle est hyper intéressante pour le sommeil quand elle est intensive, quand elle est pratiquée en journée. Parce qu'on participe à la dépense. Et donc, évidemment, le soir, ben, ça va beaucoup mieux. Si on n'a pas le choix et qu'on doit pratiquer, qu'on veut pratiquer une activité physique et que ça va se passer plutôt en soirée, on va choisir vraiment quelque chose de beaucoup plus doux.
Ou de retarder l'heure de son sommeil.
Alors, retarder l'heure du sommeil, ça dépend, j'ai envie de dire, parce qu'il faut voir le sommeil comme un train. C'est-à-dire que quand le train arrive en gare, il faut monter dedans. Si vous ne montez pas dedans, eh bien rendez-vous 45 minutes plus tard pour monter dans le suivant. Parfois, ce n'est pas toujours la bonne solution de retarder, je parlais de décalage de phase en début de cette émission, ce n'est pas toujours la bonne idée de décaler la phase. Il vaut mieux avoir un endormissement régulier. Si vous êtes habitué à vous endormir, je dirais, vous savez que votre train il passe aux alentours de 22h30, 23h, eh bien, il faut essayer au maximum de conserver cette habitude.
Ce qui veut donc dire que quand on se sent fatigué en fin de journée, en soirée, c'est le moment d'aller se coucher.
Oui, c'est le moment d'aller se coucher. On ne renclenche pas un épisode de série, par exemple. On ne lutte pas contre vents et marées. Non, c'est le moment d'être raisonnable et d'aller effectivement se coucher. C'est là qu'on va vraiment privilégier la phase d'endormissement et donc, bien sûr, derrière, la qualité de notre sommeil.
La nuit, c'est aussi le moment où le corps est au repos, où se fait une grosse partie de la digestion.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur son dîner. Donc le soir, par exemple, donc dans les grands principes de naturopathie, on va privilégier un repas plutôt léger et sans viande, par exemple. Pourquoi ? Parce que la viande, elle est hyper longue à digérer et que du coup, vous allez demander un effort à votre système digestif au moment où celui-ci est censé se reposer. Donc du coup, ben, ça ne marche pas. Donc on va plutôt privilégier un repas léger. Ce qui est intéressant aussi, c'est de consommer des féculents. Donc là, ça peut faire bondir certaines personnes. Et quand je parle de féculents en naturopathie, je vais parler de pâtes complètes. Je vais parler de tout ce qui est légumineuse. Donc les lentilles, les pois chiches, les haricots. Pourquoi ? Parce que ces aliments sont riches en tryptophane. Alors le tryptophane, c'est un acide aminé hein, qui va être le précurseur de l'hormone, la sérotonine, l'hormone du bonheur, qui elle-même va se transformer en mélatonine, l'hormone du sommeil. Alors si j'amène la matière première pour fabriquer tout cela, ben, évidemment, je travaille à la qualité de mon sommeil. Donc lors du dîner, c'est super si on a des féculents. On va éviter donc la viande pour les raisons que je vous ai données. Et puis on va éviter aussi tout excitant. Donc c'est-à-dire qu'on va éviter une prise de sucre, alors de sucre plutôt de dessert, de grignotage, etc. On va éviter aussi les boissons sucrées, donc les jus, les sodas. On va éviter également le chocolat. Désolé pour le petit carré de chocolat, Bruno, devant la télé avec la tisane. Ça, c'est fichu, hein, vous pouvez l'abandonner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le chocolat, il contient un excitant, il contient de la théobromine. Et pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, ben, ça ne va pas vous aider. Voilà.
On a mangé et puis on va se reposer, mais ça n'empêche que j'ai plein d'idées dans la tête, j'ai mon cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, comment je fais pour le calmer ?
Alors pour le calmer, il va falloir un petit peu l'apprivoiser, un petit peu comme un animal là qui bouge dans tous les sens et puis lui apprendre à rester sage avec des moyens accessibles. Hein. Donc ça va être par exemple de la respiration, tout simplement, ça va être faire de la respiration diaphragmatique, de la respiration dans le ventre. Ça peut être aussi faire de la méditation, tout simplement. Donc, se poser, observer ses pensées. Ça peut être aussi un temps de coloriage, un temps où avant d'aller au lit, je me pose et je colorie par exemple des mandalas, qui est une forme de méditation. Si les pensées sont très ruminantes et c'est vraiment trop puissant, vous n'arrivez pas à méditer, etc., on peut aussi passer par les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach qui sont ces élixirs floraux qui jouent sur les émotions. Et donc, il y a par exemple une fleur dédiée aux ruminations mentales, le marronnier blanc. Le white chestnut, et qui va justement vous recaler au présent et vous éviter de partir dans les ruminations mentales, dans les scénarios, qu'aurais-je pu faire, qu'aurais-je dû dire, etc., etc.
On a parlé du bien dormir, de bien se reposer la nuit, mais quid de la sieste ?
Alors la sieste, ça c'est tout un chacun qui va voir si il en a besoin. Si on en a besoin, on peut faire la sieste. En général, elle est recommandée de courte durée. Hein. La durée classique recommandée, c'est 20 minutes. Voilà, elle peut venir donc juste après le repas, histoire de se poser et hop, de redémarrer. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Donc, il faut s'écouter. Si vous partez pour une longue sieste, assurez-vous que derrière, vous ne vous retrouviez pas dans un état complètement flagada, j'ai envie de dire. Donc, il y a des personnes qui peuvent très bien dormir une heure, deux heures de sieste et hop, qui repartent et c'est OK. Et puis d'autres, vous allez leur casser complètement la journée. Le reste de la journée va être un enfer. Donc la sieste, pourquoi pas, la micro-sieste, il faut voir si ça correspond, si vous ressentez un mieux. En fait, il faut toujours expérimenter. si on se dit, bon, ben, j'ai envie de dormir, est-ce que, allez, je tente 20 minutes, comment je me sens avec 20 minutes de sieste? Et puis on voit. Si ça apporte un vrai plus, ben vous pouvez l'inscrire comme une habitude. Si vous sentez que vous êtes vaseux et que ça ne vous correspond pas, ben c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement.
Donc Alexia, là on vient de voir tous les bons messages qu'il faut envoyer déjà à son cerveau pour bien dormir et être bien reposé, qu'il s'agisse de la sieste ou d'une nuit complète. Donc pour passer une belle nuit et bien reposer, est-ce qu'il y a des rituels à faire le matin en se réveillant pour te dire « ça va être une bonne journée »
Oui, bien sûr. Déjà, on peut commencer par boire un grand verre d'eau. Si on peut l'absorber tiède ou chaud, ben c'est super, donc pour bien réveiller le corps. On peut aussi pratiquer des étirements doux pour se lancer dans la journée. Et puis, pourquoi pas se donner une intention, une phrase positive comme celle que vous venez de dire. Donc, la journée va bien se passer, je suis en forme, je suis en pleine santé. Un petit peu comme pour se répéter cela tout au long de la journée. Et avoir la journée devant soi. Une journée qui va bien se dérouler et dans laquelle on rentre avec un état d'esprit optimiste fait que aussi on va travailler pour son coucher. Parce que évidemment, peut-être on se couchera plus positif, moins de rumination, avec une bonne fatigue physique et intellectuelle, et le sommeil sera d'excellente qualité.
Ce que je retiens surtout de cette émission, c'est qu'il faut d'abord s'écouter. Écouter son corps, savoir à quel moment je dois me coucher, il le sait, à quel moment je dois me lever, il le sait, et savoir aussi s'écouter, écouter ses pensées pour ne pas qu'elles prennent trop de place.
Oui, on est bien programmé, on a tout à l'intérieur de nous, il suffit juste de s'écouter. C'est pas facile avec la vie que l'on mène en 2024, les sursollicitations, etc. Mais je vous assure qu'on est prééquipé et que si on se met en conscience avec ce dont on a besoin et qu'on le ressent profondément, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à se laisser aller finalement.
Merci Alexia.
Avec plaisir Bruno.
À une prochaine émission pour d'autres conseils.
Avec joie.
Pour que Radio Galaxy vous suive partout, programmez Radio Galaxy sur votre autoradio, dans votre voiture. Radio Galaxy 98.5 FM.